Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, bienvenue dans l'équipe est sauvage en public le vendredi. Ouais, 2 heures, vous le savez, hybride, combinant gai savoir, humour parfois un peu leste et suspense haletant, puisqu'ici, vous le savez, on note les journalistes qui se disputent la prestigieuse couronne de chroniqueur du jour. Bref, comment définir l'ADN de notre émission ? C'est un peu comme si Star Wars rencontrait la grande vadrouille.
Luke, je suis ton père.
Ah merde alors, comment ça merde alors ? But alors, you are French ?
Qui triomphera ? Qui, au contraire, basculera du côté obscur de la force ? Vous votez via Twitter pour nous accompagner aujourd'hui, une invitée d'honneur que j'aime profondément. Quelqu'un qui me touche en tant qu'artiste et, dois-je l'avouer, également en tant que femme. Pour vous donner une idée, la dernière fois que j'avais été fébrile comme ça, c'était face à Jeanne Chéral.
Ah, mais ça me fait tellement plaisir que vous...
Je prends ma respiration et j'y vais. Bonjour Isabelle Carré.
Bonjour.
Attention, parce que si vous êtes timide, ça va me rendre timide aussi. Hein. Ah,
deux timides qui se rencontrent. Isabelle, vous serez la semaine prochaine à l'affiche avec François Berléand, que nous recevions hier, de l'Esprit de famille d'Éric Bénard. Mais on peut d'ores et déjà vous voir en vrai, dans détail, au théâtre du Rond-Point à Paris. Comment vous résumeriez cette pièce faite de scénettes de la vie conjugale ? Vous avez 4 heures.
J'ai 4 heures. Ça va aller alors. Mais c'est l'histoire de deux couples qu'on suit pendant une dizaine d'années, une décennie un peu particulière, celle des années 90. Alors, je vais un peu casser l'ambiance, mais prise entre deux effondrements, la chute du mur et la chute des Twin Towers. Voilà, et sont des gens qui essayent de retrouver le bonheur.
Alors, ma chère Isabelle, nous allons évidemment évoquer cette pièce détail au Théâtre du Rond-Point. Mais d'abord, je vous présente les forces en présence. À ma gauche, ma fidèle complice, journaliste média émérite, mais psychologiquement fragile. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'Eva Rock.
Non pas une nymphomane, mais une érotomane. Quelqu'un de vraiment dangereux, quoi.
Oh grand Dieu, oui, vous la connaissez. Oui. Bonjour Eva Rock.
Bonjour à tous.
Tout à l'heure, Eva, vous nous direz ce qu'on regarde et ce qu'on zappe ce soir à la télé et sur les écrans. Mais d'abord, présentons à Isabelle nos deux premiers journalistes en compétition. Le dandy, mi-beau gosse, mi-mou face à vous Isabelle, c'est notre expert littérature Nicolas Carreau. Un type dont les westerns sont très peu usés puisqu'il évolue essentiellement sur moquette dans des salons bourgeois sous des lustres rococo desquels on se demande ce que Huysmans a emprunté à Proust et réciproquement. De temps à autre, il me fait d'ailleurs sentir l'ampleur vertigineuse de ce gouffre culturel qu'il y a entre nous. Moi qui lis France Football et pratique un humour, il est vrai, pas toujours chic. L'autre jour, il m'a dit ceci.
La différence entre les nazis et ceux qui font de l'humour, c'est que peut-être les criminels, eux, sont conscients qu'ils font du mal.
Alors, ça m'atteint pas parce que je comprends pas ce qu'il dit en fait. Bonjour Nicolas Carreau.
Bonjour.
Ça, c'est trop au-dessus de moi. Alors aujourd'hui,
Vous êtes un journaliste de terrain sur les terrains de guerre et tout.
Exactement. Aujourd'hui, vous nous racontez, mon cher Nicolas Carreau, vous avez pris pour exemple le dernier livre de Frédéric Becbédé, qui n'a pas de titre,
et ça m'a donné l'idée de vous parler des plus grands titres de l'histoire de la littérature, et les plus rigolos, et les plus courts, et les plus longs, et tout.
Parce que pour ceux qui n'ont pas eu le livre de Frédéric Becbédé,
c'est un smiley. C'est plus compliqué que ça. En fait, il y a un titre.
Ah, en fait, il y a un titre caché. À ses côtés, Isabelle, enfin face à vos côtés, Isabelle, vous nous aviez bouleversé dans ce film sur l'Alzheimer précoce, Se souvenir des belles choses. Découvrez Axel de Tarlé, notre expert écho, dans Se souvenir des choses tout court, ce serait déjà pas mal. Film poignant sur un journaliste qui, après plus d'une centaine d'émissions, ne sait toujours pas distinguer le moment du teasing, où il doit juste nous donner son sujet en deux mots, de sa chronique elle-même.
Oui, mais ce qui est très intéressant, c'est que, surtout, ce que je disais, c'était je commence ma chronique, là, en fait.
Quel professionnel. Oui. Le plus dur, c'est comme dans le film, c'est pour les proches. Hein. Bonjour Axel de Tarlé.
Bonjour Mathieu.
Depuis quelques temps, Axel, je me demandais pourquoi j'étais toujours tout seul à la cantine d'Europe 1. À midi, vous avez une réponse.
Oui, je vais parler de pourquoi on ne va pas à la cantine, pourquoi on ne va plus à la cantine. Mais d'abord, je voudrais quand même rendre hommage à Nicolas Carreau, parce que hier...
Les vacheries commencent.
Je lisais... Moi, je ne suis pas sans arrêt dans la méchanceté. Hier, je lisais tranquillement Le Monde, et je tombe sur une publicité des éditions Grasset pour vanter justement les mérites du bouquin de
Becbédé.
Et qu'est-ce que je lis en énorme, mais en énorme dans la pub, vous le voyez ? Son meilleur roman signé Nicolas Carreau, Europe 1.
En fait,
c'est presque
du copinage
pour Nicolas Carreau. Ah, et je suis très jaloux parce que moi, je donne mon opinion à tout bout de champ, mais je ne vois
personne pas mon opinion
le lendemain en 4x3 dans une pub dans Le Monde. Donc franchement, bravo.
L'appel est lancé. Merci Axel, le programme est distribué à peu près. On a à peu près compris de quoi vous allez traiter. L'équipe est sauvage, c'est parti.
L'équipe est sauvage.
Pour cette 101e édition de L'Équipe est sauvage, nous recevons donc Isabelle Carré. Mais pour la 100e, hier, nous recevions François Berléand, qui a une question pour vous, Isabelle.
Ah, Isabelle, c'est François Berléand. Voilà, j'aurais te poser une question, parce que ça m'énerve. Comment tu fais pour toujours être exceptionnel dans tous les films, toutes les pièces que tu joues? Voilà, comment tu fais?
Visiblement, ça s'est mal passé sur le tournage de L'Esprit de Famille.
C'est vrai qu'il y avait une ambiance incroyable. Tout était idyllique. Le metteur en scène, Éric Bénard, nos retrouvailles avec François, effectivement, avec qui j'avais déjà tourné dans plusieurs films. Josiane Balasco, qui m'avait dirigée dans Cliente. Et Guillaume de Tonquédec, avec qui j'avais joué quand j'avais 20 ans, L'école des femmes.
Donc c'est des grandes retrouvailles, ce film.
Ouais, et c'est vrai que du coup, cet esprit de famille, il était vraiment là.
Et il se sent, il est palpable, ouais, à l'écran. Vous jouez donc au Théâtre du Rond-Point en ce moment. C'est pas la première fois que vous jouez dans ce théâtre. C'est une salle assez symbolique pour vous. Vous dites, j'ai débuté à 17 ans, j'avais rendez-vous avec une copine dans le hall de ce théâtre quand Jean-François Balmer est venu me voir et m'a demandé si je pouvais pas passer une audition. J'étais en avance, j'ai accepté. C'est là que tout a commencé.
C'est vrai, et je dois vous dire que tous les soirs, en fait, je regarde la petite fenêtre. En fait, c'était la salle où on allait, voilà, on jouait là avec Jean-François. Et tous les soirs, quand j'arrive au repos, je regarde cette fenêtre et j'ai l'impression de retrouver l'excitation de la première fois, quoi. Peut-être pour ça que j'aime particulièrement ce théâtre, outre le fait que c'est quand même un lieu culturel. Enfin, ce qu'en a fait Jean-Michel Ribes est quand même assez exceptionnel. En plus, les auteurs vivants, moi, j'aime le théâtre contemporain. Pourquoi? Parce qu'ils nous parlent de nous, en fait. Moi, quand je suis spectatrice, au théâtre, ce que j'ai envie de voir, c'est qu'on me parle de moi, de mes préoccupations, de mes questions du moment. Bon, même si, effectivement, quoi, les grandes pièces de Shakespeare vous parlent de vous aussi, mais quand même, ces questions voilà, qui sont soulevées dans la pièce Détail, par exemple, le désir d'enfant, les fécondations in vitro, on parle aussi de ça, on parle des migrants, des réfugiés.
Il y a plein de résonances avec l'actualité.
Il y a plein de résonances. Ouais. Parce qu'on parlait de ces années 90, c'est vrai qu'elles sont particulières dans le sens où c'est vraiment en germe tout ce qu'on va vivre aujourd'hui, en fait. La mondialisation qui commence. C'est assez fascinant. Ouais.
Avec Eva, on est ravis de l'accueillir. C'est vrai, elle est belle, elle est lumineuse, elle est brillante.
C'est fou, hein, c'est ma sœur jumelle.
Oui, pardon, excusez-la. Isabelle Carré, notre invitée.
J'ai toujours rêvé d'être une sœur, je veux être la sœur d'Eva, moi.
Quelle actrice, vraiment. À suivre, Carlos doit se retourner dans sa tombe. Eh bien, pas nous, lui répondent en cœur les Français qui, d'après les derniers chiffres, vont de moins en moins à la cantine, en entreprise en tout cas. Qu'est-ce qui fait que vous désertez le self? Axel de Tarlé nous explique. Et c'est vrai que dans L'Équipe est sauvage, nous, on ne va plus jamais à la cantine car on sait ce qui nous attend dans l'émission. Et les invités aussi, d'ailleurs, ne déjeunent plus avant de venir nous voir car, comme François Berléand hier, ils savent qu'il y aura du pinard et de la truffe. D'où quelques moments, c'est vrai, de flottement à l'antenne.
Je veux bien revenir demain.
Mettez de la truffe à la cantine, on reviendra, hein, c'est simple.
Europe 1, 16h-18h, L'Équipe est sauvage. L'Équipe est sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.
Associé, journalisme exigeant et humour potache, sur le papier, c'était comme créer une Virgin Tequila Paf. Ça n'avait pas de sens et pourtant, vous écoutez la 101e de L'Équipe est sauvage, le grand tournoi qui oppose chaque après-midi les meilleurs journalistes d'Europe 1 au service de vos zygomatiques et de vos neurones, sous l'œil aujourd'hui de la comédienne Isabelle Carré, actuellement au Théâtre du Rond-Point à Paris, dans Détail de Lars Noren. On continue évidemment d'en parler, mais l'heure est venue, ma chère Isabelle, d'écouter notre premier journaliste en compétition. Un cœur simple, aurait dit Flaubert. En effet, on a tendance parfois à fantasmer, vous savez, la vie des stars de l'audiovisuel. On les imagine toujours entre deux cocktails, deux avant-premières. Eh bien, écoutez ce dialogue survenu hier en off durant la matinale entre Axel de Tarlé et une journaliste au sujet d'un collègue commun, Anis Mbida. Vous y découvrirez que non seulement Axel a une vie très chiante, mais que même ses rêves sont pourris.
J'ai rêvé d'Anissa.
D'Anissa ou d'Anissé?
D'Anissé, pardon. D'Anissé Mbida.
Et alors, c'était sympa?
J'étais chez lui.
Ah! Et vous chantiez ou pas?
Ouais, on faisait les cons.
Auditeurs, vous voilà rassurés, nos vies et même nos rêves n'ont rien d'intéressant. Axel, cet après-midi, je ne vous poserai qu'une seule question. Où est-ce que vous avez déjeuné à midi?
Bah juste, oh, quelle entrée en matière. Donc, je me parle de la cantine. Oui. J'ai bien compris que c'était pas... Là, il fallait que je me lance dans mon papier. Voilà.
Non. C'est bien. Il progresse.
En France, on a le numéro 2 mondial des cantines. C'est Sodexo. Et je les ai rencontrés récemment. Ils sont très embêtés parce que on va de moins en moins à la cantine.
Vous les avez rencontrés avant ou après votre formation anticorruption de lundi dernier?
Oui, enfin, Sodexo, c'est pas non plus un 3 étoiles de chez Michelin. Où va Nicolas Caro tous les jours, etc., déjeuner avec ses grands auteurs.
Pas d'attaque à Dominem.
Donc, vous savez combien de fois par semaine on va à la cantine maintenant, en moyenne?
Ça dépend quand même.
On n'y va plus que deux fois par semaine. Dans les entreprises, les salariés ne vont plus que deux fois par semaine à la cantine, et donc c'est très embêtant. Alors pourquoi va-t-on de moins en moins à la cantine ?
Les lunchbox ?
Voilà, alors de plus en plus, il y a ça. En fait, c'est le fait maison qu'on apporte chez soi, parce que les gens sont véganes, etc., ils veulent du bio, donc ils se préparent leur petite gamelle, et les entreprises, du coup, mettent des micro-ondes dans un coin.
Pourquoi vous dites ça avec du mépris ? Les gens sont véganes, etc.
C'est vrai qu'on sent, on sent une pointe de mépris. Hein,
Non, mais parce que c'était ma... Pourquoi j'ai un peu de mépris ? Non, mais c'est pas du mépris, mais c'est le signe aussi d'une individualisation croissante de la société. On est de plus en plus dans son coin, on déjeune tout seul avec sa petite gamelle qu'on a amenée, avec son téléphone portable. Et vous savez, c'est autrefois, on allait tous ensemble, il y avait un côté troupeau, à 12h30, on descendait à la cantine et on rencontrait Mademoiselle Jeanne du 5e étage à la compta. Non mais c'est vrai, il y avait plus un esprit d'entreprise qui se perd dans cette société de l'individualisation, à tel point d'ailleurs que la cantine, c'est un truc qui coûte cher pour les entreprises. Donc elles disent, bah, écoutez mes petits chéris, puisque vous ne voulez plus y aller, de plus en plus, les entreprises ferment les cantines et vous donnent des tickets restaurants, et les gens sont même ravis. Et donc, voilà, bah, c'est un marqueur de la société. Et figurez-vous que Sodexo, alors on pourrait dire, mais qu'est-ce que vous faites ? On leur dit, mais qu'est-ce que vous faites si les gens ne vont plus à la cantine ? Bah, ils suivent le mouvement. Ils disent, bah, écoutez, si les gens ne veulent plus aller à la cantine, on leur donne ce qu'ils veulent. Et donc, Sodexo se lance, un peu comme Deliveroo, dans la livraison à domicile. C'est-à-dire qu'ils ont toujours leur cantine en périphérie des grandes villes, enfin leur cuisine, pardon.
Ils livrent les bureaux, mais
voilà. Et ils font des applications. Alors ça s'appelle Food Cherry pour faire un peu de pub. Vous savez, je fais toujours un peu de pub.
Votre nouveau
c'est
sponsor.
C'est mon côté annonceur. Oui. Mais eux aussi, c'est de moins en moins de la restauration collective et c'est de plus en plus de la restauration individuelle. Et je trouve que vous parliez des germes de notre époque qui étaient nés dans les années 90. Mmh. Eh bien, voilà une tendance à l'œuvre qui est l'individualisation croissante de la société. On ne prend plus les transports en commun, on va dans Uber, on ne va plus au restaurant d'entreprise, on se fait livrer sa petite gamelle à domicile.
Mais Sodexo ne va pas réagir en améliorant tout simplement la bouffe des cantines.
C'est peut-être
c'est souvent pas très bon. C'est peut-être pour ça qu'on n'y va pas. Si on a une bonne cantine, on y va.
Alors voilà, ils essayent de monter en gamme, mais les gens ne veulent pas payer, etc. Parce que, enfin, c'est facile de dire, vous savez, moi, on m'a toujours dit que ceux qui se plaignaient de la cantine en disant que c'était pas bon, ils mangeaient encore plus mal chez eux.
Non. Moi, je suis très lunchbox. Je trouve que c'est une bonne idée. En plus, c'est écolo. Et visiblement, Isabelle est écolo.
Oui.
Donc, je vais essayer d'aller dans son sens. Oh, merci, Axel de Tarlet. Moi, je suis prêt à retourner à la cantine si Isabelle vient avec nous. Sinon, non. C'est vrai, c'est bien de commencer par une cantine pour un premier rendez-vous. Je n'oserais pas vous inviter direct au restaurant, Isabelle.
Vous avez peur de tomber amoureux de moi ?
Oui. À suivre, parlons littérature. Ce coquin iconoclaste de Frédéric Becbédé a osé l'impensable, ne pas donner d'autre titre à son dernier roman qu'un smiley. Comment se décide un titre de roman ? Quels sont les secrets des titres devenus cultes ? Le beau gosse d'Europe 1, Nicolas Carreau, nous raconte. Une chose est sûre, si jamais il devait publier une autobiographie, j'ai déjà le titre.
Il y en a eu d'autres et il y en aura d'autres.
Le bon Carreau arrive juste après Suzanne. Son nouvel album sort aujourd'hui. Vous connaissez Suzanne, Eva ?
Oui, j'ai découvert il y a la semaine dernière, figurez-vous. Oui.
Eh bien, vous connaissez le titre de la chanson ?
Pas du tout, non.
C'est rigolo, ça s'appelle « Il est où, le SAV ?» sur Europe.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Comprendre le monde sans jamais renoncer à en rire, vous écoutez l'équipe est sauvage en public le vendredi. Oh, public visiblement ému de me voir en vrai. À moins que ce soit plutôt mon invité, Isabelle Carré, qui les mette dans cet état. Isabelle, vous êtes à l'affiche d'une pièce intitulée « Détails » au Théâtre du Rond-Point et la semaine prochaine au cinéma à l'affiche d'un film au nom que je qualifierais de « piégeux », comme j'en ai fait l'amère expérience hier avec François Berléand. Double actualité pour vous, un film, « L'esprit tranquille » qui sort la semaine prochaine.
L'esprit de famille, vous avez dit « l'esprit tranquille », mais peut-être que vous avez...
J'ai dit « l'esprit tranquille » ?
Oui.
Mais comment j'ai pu dire quelque chose qui n'est pas écrit sur mon texte ? François Berléand qui sera à l'affiche de « l'esprit d'équipe ».
Vous venez de dire « l'esprit d'équipe ».
Mais attends, ça pose un autre problème, c'est qu'au début de l'émission, ça ne fonctionne pas non plus.
Non,
j'ai dit « l'esprit de famille », oui, pardon.
Ah oui, « mémoire de poisson rouge » aussi, hein.
Vous serez dans un super film avec François Berléand. Voilà, comme ça, on va dire que ça, c'est simple. Et vous êtes aussi, voilà. Isabelle, sur les planches du théâtre du Rond-Point. Dans cette pièce, vous êtes, on va dire, quatre acteurs principaux. Mm-hmm. Vous jouez à tour de rôle. Je me suis toujours posé une question peut-être un peu con, mais vous faites quoi en coulisses pendant tous les moments où vous ne jouez pas ? Est-ce que vous relisez le texte ou non ? Le texte, vous le connaissez par cœur. Qu'est-ce que vous faites ? Ça doit être hyper angoissant.
Déjà, on se change parce qu'il y a beaucoup de changements de costume.
Mais ça ne prend pas tant de tout ce temps de se changer.
Voilà, et puis après, j'écoute mes camarades. Et c'est vrai que je préférerais à la création, on l'a créée à Angers, parce que je pouvais voir des coulisses et là, je ne peux pas voir des coulisses.
Ah, donc c'est plus
alors,
angoissant.
J'écoute encore plus, mais sinon, j'adore regarder mes camarades. Mais il y a des fois où je fais d'autres trucs. Par exemple, je me souviens qu'il y avait toute une période où j'avais un petit carnet et je dessinais.
Mais c'est quelque chose d'artistique. Vous ne pouvez pas, je ne sais pas, consulter des annonces immobilières ou il faut que ça soit quelque chose d'artistique.
Il faut quand même écouter un petit peu. parce que tu risques de rater ton entrée.
Vous n'avez
c'est
jamais...
pas sympa pour les camarades qui sont un peu plantés sur scène.
Vous n'avez jamais envoyé un SMS ou passé un coup de fil durant ces moments où
et
vous
non,
êtes en coulisses?
Jamais.
Est-ce que vous avez des petits rituels avant de monter sur scène?
Oh là là, souvent, les acteurs c'est pas des petits rituels, des c'est des tocs.
Ah, vous avez des tocs, carrément.
Tout un tas de tocs.
Vous avez notamment un truc avec une assiette de fromage, je ne sais pas si c'est vrai cette histoire.
Comment vous savez ça?
Je me renseigne.
Ah, vous avez été au rond-point, vous avez parlé à tout le monde.
Oui, j'ai senti l'odeur en fait, j'ai deviné. Racontez-nous.
En fait, ce qui se passe, c'est qu'avant de jouer, j'ai besoin de manger un petit peu pour me dire que je prends des forces. Et en fonction du premier plat que je prends pour la première, et si la première se passe bien, il faut que je prenne tout le temps la même chose pendant... Alors, par exemple, quand on jouait la dégustation l'année dernière qui a duré 6 mois, j'ai mangé la même chose tous les soirs pendant 6 mois. Donc, j'ai pas intérêt le premier soir en fait à prendre, je sais pas, une saucisse purée quoi. Parce que...
bah, Mathieu Noël, il aurait pris la truffe, vous imaginez, ça lui aurait coûté cher les 6 mois.
Oui, mais ça aurait coûté cher à la production de la pièce surtout.
C'est sûr.
Il paraît que pour vous approprier au mieux un texte, vous faites partie des rares actrices qui réécrivaient vous-même une partie du texte, c'est vrai ça?
Ouais, je réécris tout. Pour me donner l'impression en fait que c'est moi qui l'ai inventé. En fait, c'est une façon de par mon écriture, et puis c'est aussi pour le retenir. Ouais. C'est un moyen mémotechnique formidable. C'est comme ça que j'ai réussi à passer le bac
en réécrivant tout.
tous mes cours.
Bah c'est une bonne technique, on n'y pense pas forcément. Ouais. Eva,
Le texte de la pièce est absolument formidable et très actuel. Beau, hein. Donc j'imagine, quand vous découvrez la pièce, forcément on a envie de la jouer. Mais il y a aussi tout le côté mise en scène qui est absolument spectaculaire pour cette
Frédéric
pièce-là.
Frédéric Bellier-Garcia, voilà.
Alors est-ce que c'est une découverte après coup? C'est-à-dire que c'est la cerise sur le gâteau, on se dit, ah bah tiens, en plus la mise en scène va être formidable. Vous y pensez, vous, à la mise en scène pendant que vous lisez le premier texte?
J'y pense pas, mais je connais Frédéric Bellier-Garcia avec qui j'ai déjà travaillé 2 fois. Et à chaque fois, je connais son travail et je sais que sa scénographie va être formidable. Et là, c'est vraiment le cas. La lumière, les costumes, la musique. J'adore la musique. Enfin, je trouve ça super important, la musique dans un spectacle. Parce que moi, je vis en musique. J'ai tout le temps mes écouteurs. Quand j'écris aussi, j'écris beaucoup en musique. Et voilà, ça m'accompagne.
Elle a ses écouteurs et son plateau de fromage. Il est assez rare dans nos métiers de s'imaginer qu'une personne est formidable et de découvrir en la recevant qu'elle l'est pour de bon. Isabelle Carré, notre invitée jusqu'à 18h. À suivre, à l'occasion de la sortie du dernier roman de Frédéric Becbédé, dont le titre est un smiley, notre spécialiste littérature Nicolas Carreau nous entraîne dans les coulisses de la fabrication d'un titre. Si certains génies, comme François Berléand, ont un sens inné du titre choc, comme cette campagne avortée qu'il avait proposée à Knorr à l'époque où il était stagiaire dans la pub.
Et mon cube, c'est du poulet.
D'autres sont plus laborieux. À quoi reconnaît-on un bon titre? Nicolas nous révèle les secrets des titres cultes des grands romans de la littérature française. Vous connaissez par exemple Le Rouge et le Noir, Eva?
Mais oui, par Jackie et Michel.
Presque, on va en parler.
L'équipée sauvage, 16h, 18h. L'équipée sauvage sur Europe 1, 16h, 18h, Mathieu Noël.
Hier soir, vous avez mis 4 étoiles à votre livreur de pâte taille crevette, mais combien mettez-vous à nos journalistes? Oui, en 2020, l'ubérisation de nos sociétés n'épargne plus personne, même les titulaires de cartes de presse. Bienvenue dans l'équipée sauvage, 2 heures où sous les hurrahs d'un public en délire, nous départageons les meilleurs chroniqueurs de cette station. À nos côtés aujourd'hui, une immense comédienne dont j'espère qu'elle se foutra moins de ma gueule que François Berléand hier. Être l'invité de la 100e de l'équipée sauvage, ça j'imagine que c'est un tournant dans votre carrière.
Et dans la vôtre aussi.
Isabelle Carré, vous êtes actuellement à l'affiche de Détails de Lars Noren au Théâtre du Rond-Point à Paris. On continue d'en parler, mais la compétition n'attend pas. Et les types qui peuvent se prévaloir de 9T cumulés dans Télérama, encore moins. Nicolas Carreau, intrigué par le titre, ou plutôt le non-titre, puisqu'il s'agit d'un smiley du dernier livre de Becbédé, vous vous êtes penché pour nous sur l'origine des grands titres de la littérature. À quoi voit-on tout de suite qu'un titre est bon? Moi je dis, en écoutant l'avis d'Amélie Nothomb.
L'équipée sauvage, ça c'est un beau nom.
C'est gagné. C'est bon, non?
Oui, mais c'est pas vous qui l'avez inventé.
Non, c'est vrai. C'est vrai que le piqué, oui. Bon, d'accord, bon, on va enchaîner.
Bon, bref, Amélie Nothomb, c'est vrai d'ailleurs, j'avais pas pensé, mais elle a le sens du titre quand même. Métaphysique des tubes, par exemple, c'est super.
Effectivement, c'est magnifique.
Bref, Becbédé, effectivement, et il a pas de titre dans son nouveau roman, mais c'est juste un smiley, un homme
vraiment,
qui pleure.
C'est vraiment l'ancien de la pub, quoi. Ouais. C'est vraiment tellement
mais
le
exactement,
coup de pub
énorme. Exactement, c'est hyper marketing. Et moi, j'ai eu la maison d'édition au mois de décembre, avant quand on a appris que ça allait arriver. Et ça sortait en janvier, et je lui ai dit, mais il y aura bien un titre, forcément. Elle me dit, mais non, c'est un smiley, c'est tout, il n'y a pas de titre, c'est ça le titre.
On n'a pas reçu Freddy Abagbédé dans cette émission, comment je ferais pour lui parler de son livre s'il n'a pas de titre? Et justement, vous publiez
En fait, il y a un titre. On ne peut pas ne pas mettre de titre. Il faut être référencé à la BNF, chez les libraires, bien sûr, sur Amazon pour le trouver, si vous mettez un smiley, bon courage, vous en vendrez zéro. Et en fait, sur la page de Garde, il y a un titre, c'est L'homme qui pleure de rire. Ce qui est un bon titre d'ailvers. Mais effectivement,
c'est la traduction du smiley qui est sur la couverture.
Parce que c'est un smiley qui pleure.
Et en fait, les gens ne l'ont pas vu.
C'est ça, ce qui est formidable, c'est que c'est exactement la substance du livre de Beck BD. C'est ça, c'est un homme qui pleure de rire. C'est un truc à la fois très drôle et très triste.
Et visiblement, ça vous a plu, puisque il y a votre nom dans le monde.
Moi, j'aime beaucoup. Et c'est très, très important, un titre. C'est le premier contact, quand même, avec un livre. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui ne connaissent d'un livre que son titre, même quand ils l'ont...
Alors c'est quoi votre titre préféré?
Moi, j'en ai justement.
Allez-y Isabelle Carré, moi je veux entendre le vôtre.
Ça dit toute la substance d'un titre. Donc par exemple...
Je m'en fous de toi, il y a Isabelle Carré avec nous. Vas-y. Je veux connaître le titre préféré
d'Isabelle. Le cœur est un chasseur solitaire de Carson McCullers.
Oh, wow, ça c'est beau. On dirait que vous le connaissez Nicolas.
Oui, comme vous êtes un peu expert littérature quand même. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, mais elle aime les deux.
Pas mal aussi, ouais.
J'avoue. On va en reparler. Mais dire la substance, c'est très important, rester intriguant en même temps. Les Misérables, par exemple, ça dit bien ce qu'il y a dans le roman. Au début, ça devait s'appeler Les Misères. Et en fait, Victor Hugo s'est dit non, parce que ce qui compte dans mon roman, ce sont les personnages, les individus, les gens. Et donc, c'est devenu Les Misérables. C'est très important. Il y a des titres absolument cultes, sans arrêt imités, dans la pub, ou même pour d'autres titres, ou dans les journaux, pour les titres de journaux. Alors, il y a Voyage au bout de la nuit, évidemment, je vous en cite pêle-mêle. Hein. Les Liaisons dangereuses, La promesse de l'aube, Des souris et des hommes, Steinbeck, Les raisins de la colère. Combien de fois on a vu des articles intitulés Les raisons de la colère. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, d'Harper Lee, qui est un des livres préférés de Isabelle Carré.
Ne rougissez pas quand même.
L'attrape-cœur aussi de Salinger dans la même veine. Alors l'attrape-cœur, la traduction en fait est un peu étrange. Ça s'appelle The Catcher in the Rye en américain. Ça veut dire celui qui attrape dans le champ de seigle. Ah, effectivement, c'est un peu compliqué.
Ah, heureusement qu'on ne l'a pas traduit littéralement.
Souvent, ce sont des citations ou des bouts de vers de grande poésie. Par exemple, il y a L'Infinie Comédie de David Foster Wallace. C'est un extrait d'un poème de Shakespeare.
Et Eric Orsena, dans son dernier livre qu'on a reçu ici, il a pris du Kafka. Brisez en nous la mer gelée.
Exactement. Ça sonne bien. Et alors, souvent, les traductions, on en parlait, c'est très compliqué. Par exemple, il y a Gatsby le Magnifique, qui a été un four complet. Et Fitzgerald était persuadé, et on a les lettres qu'il écrit à son éditeur, que c'est à cause du titre, il fallait pas l'appeler The Great Gatsby, mais juste Gatsby tout court. Pour lui, ça changeait tout, et il aurait tout vendu si on n'avait pas mis The Great ou Le Magnifique. Et il y a une histoire fabuleuse de traduction, c'est Pottsville, 1280 habitants, de Jim Thompson. Alors ça, c'est la traduction littérale, et maintenant, le roman s'appelle comme ça, mais dans les années 70, c'était à la série noire, et ça s'appelait 1275 âmes. Il y a 5 habitants de moins. Et pourquoi? Ben parce que le traducteur s'est dit ça sonne mieux. 1275 âmes que 1280. Donc il en a enlevé 5. Et d'ailleurs, il y a eu un roman ensuite sur ce que sont devenus ces 5 habitants disparus.
Ah, c'est beau!
Et ça a été retraduit récemment et on a retrouvé les 1280 habitants. Il y a eu aussi un roman de Chandler qui, à la série noire, s'appelait Fais pas ta rosière. Et en fait, le titre original, c'est The Little Sister. Et donc maintenant, on a repris le titre, ça s'appelle La Petite Sœur, tout simplement, parce que Fais pas ta rosière, c'est très très marqué, série noire et une époque comme ça, un peu d'argot.
J'ai entendu Isabelle s'exclamer c'est beau. Est-ce que ça signifie que vous aurez les 3 points, Nicolas Carreau? Nous le verrons. Non, ne brisez pas le suspense, vous ne savez pas encore. Vous réfléchissez.
Avec ma cantine, je peux.
Vous réfléchissez, toi avec ta cantine, tu peux déjà y aller. Vous réfléchissez.
Je vais prendre ma lunchbox.
Isabelle, quand je disais tout à l'heure que je vous aimais beaucoup, c'est pas du tout une flagornerie, c'est sincère parce qu'on sent tout de suite quelque chose qui émane de vous, c'est la simplicité et l'humilité qui n'est pas la vertu première de toutes les actrices, de tous les acteurs, tous les artistes qu'on reçoit.
On a mauvaise presse, les actrices, mais on n'est pas si pire.
Non, vous n'êtes pas si pire, mais vous particulièrement pas si pire, j'ai envie de dire. Vous avez déclaré, je ne tiens pas à être tête d'affiche, les seconds rôles me vont très bien, ce sont les histoires qui m'importent, le plaisir des mots, devenir star comme Adjani et ne faire qu'un film tous les 3 ans, faire la couverture des magazines, non merci, c'est pas mon truc.
Oui, non, moi j'adore Adjani, en plus j'avais plein de photos d'elle. Non, c'est vrai, toutes les actrices que j'aime, je les mets en photo dans mon bureau, enfin plus maintenant j'ai déménagé, mais je faisais ça, j'avais plein de photos d'elle.
Ah, vous l'avez, pas enfant, vous le faisiez adulte?
Ouais, enfin 20-30 ans quoi. Non, c'est pas du tout une critique par rapport, je veux pas du tout tiré non pas sur l'oiseau moqueur mais sur Adjani. Mais c'est vrai que ça me va très bien les seconds rôles. Pourquoi ? Parce que c'est aussi une façon... On vous propose des choses différentes dans les seconds rôles en fait. Parce qu'il y a moins de risques à prendre. Alors que dans un premier rôle, le metteur en scène se dit « il faut quand même être sûr qu'elle sache le faire ». Et souvent du coup on se répète un peu. Et on finit par se caricaturer au bout d'un moment. Donc, prendre un petit risque, quitte à se planter d'ailleurs, c'est pas grave. Je pense qu'on a le droit à l'erreur. À partir du moment où ce qu'on a fait, c'était sincère, en fait.
Mais est-ce que vous avez l'impression que vous êtes beaucoup planté dans votre carrière ? Il y a des rôles que vous...
Non, je vais plus voir les films que je fais à cause de ça.
C'est-à-dire
parce que j'ai trop fait 10 fois le tour du pâté de maison en pleurant à la sortie de projection.
Mais non, vous regrettez certains films.
Ben, c'est pas les films que je regrette, mais c'est ma prestation à moi. Ouais, je me dis, bon, ça c'était pas terrible. Et du coup, je fais le tour du pâté de maison en pleurant. Et à un moment, je me suis dit, je vais arrêter de faire le tour du pâté de maison. Comment faire
la prochaine fois, venez à la maison.
Je ne vais plus le voir.
Faites pas le tour du pâté, venez directement chez moi. Elle est différente et c'est pour ça qu'on l'aime. Je me mets à parler comme Barbe Olivier. Oui, décidément, Isabelle Carré fait de l'effet. À suivre, c'est le duel neuronal au sommet que vous attendez tous entre Eva Rock et Isabelle Carré. Un quiz de culture G souvent terrible pour Eva, qui néanmoins, signalons-le, progresse hein, de jour en jour, même si dans son cas, le mot progression est peut-être un peu abusif.
Je voulais être ingénieure comme mon père. Je voulais être. Vous avez vu que je me suis reprise toute seule. Je voulais être.
Bien, super. Eh bien, tu progresses, Eva, tu progresses. Et voilà. C'est bien là l'essentiel.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage du vendredi, c'est-à-dire en public. Ouais. 2 heures pour détendre vos zygomatiques sans pour autant éteindre tout à fait vos cerveaux. Et justement, c'est un moment hautement culturel de l'émission qui arrive, le face-à-face de 2 cerveaux prestigieux, surtout 2 grandes actrices. Oui, j'ai bien dit 2 grandes actrices, car il y a évidemment notre invitée Isabelle Carré, César de la meilleure actrice en 2003 pour se souvenir des belles choses, mais il y a aussi Eva Rock, en lice cette année pour le César du meilleur espoir féminin, pour sa prestation incroyable dans... Ce souvenir de faire semblant de comprendre ce qu'il raconte lorsque François Berléand se lance dans une très longue, très 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 longue digression.
Ça change beaucoup, ouais. Le fait de bouger, tout ça, ça...
Bah oui, parce que la mémoire, du coup, moi je préfère bouger parce que...
Bien sûr.
Il y a plusieurs mémoires qui se mettent en place quand on est au théâtre.
Ah ben ouais.
Il y a la mémoire gestuelle, la mémoire du déplacement, la mémoire de l'autre.
Ah ouais.
J'avais une page blanche et une page...
manuscrite, ouais.
Et là, on m'a mis les 2 côtés.
Ah ouais, c'est horrible ça.
Et bah tout est...
Ouais.
Alors qu'on savait notre texte, mais là, tout à coup, c'est plus... on n'a plus l'erreur. C'est incompréhensible ce que j'ai dit.
Non.
Ah César, pour cette femme, bravo Eva. C'était très compréhensible. En revanche, ce qui ne peut pas vous échapper, contrairement à César, c'est la victoire dans notre fameux quiz. Chère Isabelle, tous les jours notre invité est opposé à Eva Rock. On parlait tout à l'heure des titres de romans. On va donc faire un vrai-faux. Chacun votre tour, je vous donne un titre, soit d'une pièce de théâtre, soit d'un film. À vous de me dire s'ils sont véridiques ou totalement inventés. Eva Rock, on commence avec vous.
Oui.
Femme à lunettes, femme à brouette. Vraie ou fausse pièce de théâtre ?
Ah oui, heureusement que vous précisez. Oui. Non, c'est faux. J'espère que c'est faux.
Mais non, il ne s'agit pas d'espérer, il s'agit de me donner une réponse.
Je dis que c'est
vous dites
faux.
C'est faux. Oui. Est-ce que vous êtes bien sûr de votre réponse?
Oui, je suis sûr de ma
réponse. Bon, d'accord, fausse pièce. Okay. Je tente à chaque fois de la piéger. Je suis toujours de votre côté, Isabelle. Isabelle Carré, plus moche que Frankenstein, tu meurs. Vrai ou faux film?
Faux film.
Est-ce que c'est vraiment votre réponse, Isabelle?
En tout cas, je ne l'ai pas vu.
Mais si vous ne l'avez pas vu, ça voudrait dire qu'il existe.
Ouais.
Vrai film, ouais. J'ai une bonne réponse, Isabelle Carré. Vrai film sorti en 75 avec Aldo Machon.
Ah génial. Ah mais j'adore Aldo Machon.
Je vous laisse libre de cette critique.
Ça vous a pas marqué?
Non, ça ne m'a pas marqué. Eva Rock.
Oui.
Les surdoués de la première compagnie. Vrai ou faux film?
Ah mais non, là vous avez fait un mix
un
de tout. Oui, un mashup. Oui.
Eh ben non, c'est un vrai film.
Non.
Avec Darry Cole en 1980. Darry Cole qui lui me manque. En
oui, moi aussi.
Ah ouais, Darry Cole. Ah,
oui.
Et en petit rôle, il y avait même Florent Pagny dans ce film que je vous invite à découvrir tout court.
C'est les surdoués à quoi?
Les surdoués de la première compagnie.
Ah d'accord.
Isabelle Carré, pleure pas la bouche pleine.
Ah si, ça existe.
Ça existe?
Ouais.
Oui, c'est une bonne réponse, mais comment ça? Avec Bernard Ménez et Jean Carmet en 1973.
Ouais, Jean Carmet, voilà.
Ah, je ne connaissais pas ce film.
Je suis fan de Jean Carmet. Et j'ai joué avec lui. Là, vous avez l'impression que j'ai 200 ans. Mais j'ai commencé très jeune.
Vous avez commencé à 17 ans?
J'ai commencé à 17 ans et avec. Non, c'était pas mon premier film, c'était mon deuxième avec lui. Et j'avais un peu l'impression d'être cherché l'erreur, un intrus s'est glissé parmi vous. C'est-à-dire qu'on avait des scènes à table avec Deneuve, Bourringer, Jean Carmet et Giraudoux et moi.
Et ça s'est bien passé ?
C'est assez intimidant pour une première, ouais.
J'imagine. Et Baroque ?
Oui.
Vous êtes en train de perdre, vous le savez.
Oui, Mathieu.
De l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites. Vrai ou fausse pièce de
ah
théâtre ?
Ah oui, je dirais vrai.
Mais ne donnez pas d'indication à Eva !
J'ai dit vrai.
Vous avez dit vrai.
J'ai
oui.
dit vrai.
C'est une vraie pièce. Et en plus, c'est une pièce avec Isabelle Carré en 2015 au Théâtre
J'ai
de l'Atelier.
En scène, ouais. C'était ma seule et première mise en scène. Peut-être la dernière, je ne sais pas.
Mais c'était un beau titre, en tout cas.
Ah ouais.
Un titre intéressant.
C'est un film aussi magnifique. C'est le deuxième film, je crois, de... Voilà, là j'ai un trou de nom.
C'est Paul Newman.
Voilà, Paul Newman.
Paul Newman,
quand même,
ah oui, ouais. C'est un nom qu'on ouais. effectivement, vous pouvez connaître. Isabelle Carré, attention, c'est la question qui va vous départager. Nos héros réussiront-ils à retrouver leur ami mystérieusement disparu en Afrique ? Vrai ou faux titre de film ?
Ouais.
Oui, oui, oui.
Il n'y a pas quelqu'un qui a trouvé mieux dans...
Ça paraît invraisemblable.
Dans, c'est, la un production.
Vrai, c'est un vrai titre ah, de ouais. film. Un film d'Ettore Scola avec Bernard Blier, sorti ah, en bon 78 en France. Effectivement.
Ettore Scola, pourtant.
Et bah, oui, oui, pourtant. Qui remporte ce quiz ?
Oh ben, allez-y.
C'est Isabelle qui remporte quand même allez, le quiz. Isabelle, vous avez tourné quelques comédies. Je me souviens notamment de 4 étoiles avec José Garcia.
Oui.
Il y avait des répliques assez bien senties. Oui, il se pourrait d'ailleurs qu'on en entende d'ici la fin de l'émission. Est-ce que vous pensez être victime du syndrome Sandrine Bonnaire, c'est-à-dire femme hyper sympa dans la vie, hyper drôle, et au cinéma, pas beaucoup de propositions en comédie parce qu'une image un peu intello ou...
C'est à cause des lunettes, ouais.
C'est ça. Vous recevez pas beaucoup de comédies.
Je peux pas mettre de lentilles. Je peux pas, mes yeux ne le supportent pas.
Comme quoi, à quoi ça tient une carrière ?
Voilà.
Pas grand chose. Vous pouvez l'applaudir au Théâtre du Rond-Point. Actuellement, Isabelle Carré, notre invitée jusqu'à 18h.
Europe 1.
Le retour du castor. C'est le thème que nous a proposé hier notre correspondant en région Lionel Gougelot, avec pour résultat 12 minutes de fou rire dont on ne savait plus comment s'extirper.
Le castor était donc de retour dans le Nord, d'autant qu'après avoir posé des pièges à poil...
Des pièges à poil, c'est à qui a posé un piège à poil
les spécialistes. Hein. Alors c'est un instrument, hein. Ou... c'est pas une façon de poser des pièges.
D'accord.
Un lointain cousin du castor d'Amérique du Nord.
Je savais que votre sujet vous déstabiliserait vous-même.
Qui a donc réapparu.
Non mais c'est passionnant.
Quel acteur ? Un César pour Berléand. Dans quelle région allons-nous partir aujourd'hui ? Y aura-t-il encore des castors et des scientifiques à poil ? Prions que non. La réponse arrive juste après le nouveau Alec Benjamin, Demons sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Je vous l'avoue, chers amis, c'est fébrile et tremblant que nous ouvrons la page régionale de notre émission. Après la débâcle zygomatique dite du castor belge hier, je ne vous cache pas qu'on marche sur des œufs. Bonjour Arthur Mbaché.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans l'Est et aujourd'hui, je crois que votre histoire est digne des grandes heures du 13h de Jean-Pierre Pernaut, ce qui, bizarrement, ne me rassure pas. Avec vous Arthur, du terrain du vrai à Gorze en Moselle, la réouverture de la boulangerie du village.
Ne vous moquez pas. En fait, je crois qu'il faut imaginer. D'ailleurs, fermez les yeux, concentrez-vous. Une main. Une main d'artisan pleine de farine. La main d'un boulanger. La main d'un papa qui passe dans les cheveux de son gamin qui rentre de l'école. Un gamin qui a grandi dans la farine, dans l'odeur du pain. Il faut imaginer ce gamin, devenu grand.
C'est pas très hygiénique, ça, déjà, la main, si elle est dans la farine et qu'elle caresse les cheveux du gosse et ensuite
attendez,
elle va dans la farine.
J'étais presque ému, moi.
Ouais, voilà. Moi aussi, presque.
Et
c'est
voilà, il plante tout, l'autre.
Allez-y, Arthur.
Alors, imaginez ce gamin, devenu grand, la trentaine, qui bosse dans les BTP et qui voit son père, 70 ans, ne pas trouver de repreneur. Contraint, c'était il y a 4 ans, de fermer la boulangerie. Ce gamin, c'est Wilfried.
Au moment de la fermeture, vraiment, ça a été comme une sorte de révélation, j'ai envie de dire, un manque. Enfin, voilà, ne plus sentir ces odeurs et tout ça, enfin... J'avais quelque chose qui me manquait. C'est dans les 15 jours qui ont suivi sa fermeture, je dis, je vais reprendre la boulangerie, quoi. Il faut que je rouvre la boulangerie.
Changement de vie, apprentissage, 4 ans de boulot, spécialisation dans le pain bio.
Et la boutique qui rouvre, Arthur.
Début janvier, c'est tout frais. Écoutez la joie des voisins et du maire du village.
Et en plus, il fait du bon pain. Alors, pas pareil que son père, hein. Un petit peu moins bon que son père. Parce que je préfère encore celui de son père, hein. Mais il se démerde bien.
Il s'avère qu'on est dans la rue du commerce. On va dire, il y a une trentaine d'années, il y avait au moins 15 commerces dans cette rue-là. Une hôtellerie, il y avait des boulangers, deux épiceries, deux bouchers. Enfin bref, tout ça, c'était toute une époque.
Et à un moment, elle a mal porté son nom, cette rue. Hein.
Voilà, au fur et à mesure de l'événement des supermarchés, qui sont pas trop loin, qui sont une dizaine de kilomètres, hein, bah, effectivement, la rue aurait pu perdre son appellation rue du commerce. L'autre jour, je croisais une dame qui allait chercher son pain en pyjama. Elle était ravie, quoi, parce que avant, elle pouvait pas le faire. Il fallait aller au moins à Novéan, à 5 km d'ici.
Et comme vous le savez tous, à Novéan, comme à Corny ou à Trouville d'ailleurs, on n'y va pas en pyjama.
Vous faites ce que vous voulez, Arthur. Vous êtes un type bizarre, je l'ai toujours dit. Merci en tout cas pour ce décrochage régional émouvant qui a presque ému notre invitée Isabelle Carré.
Non, mais c'est chouette cette histoire, j'adore.
On ira acheter son pain. Mais
en plus, moi, j'ai pas mon permis, donc je peux pas aller à Novion, là où je peux
ouais,
pas où.
Mais moi, je l'ai, Isabelle. Merci, Arthur Elmaché. Europe 1. Qui repartira avec la couronne de chroniqueur du jour ? Axel de Tarlet et Nicolas Carreau vont bientôt céder leur place à deux autres concurrents. Pour s'y retrouver, notre invitée d'honneur Isabelle Carré a sous les yeux un trombinoscope que je vous laisse consulter.
Le type sur la photo là, c'est bien le sosie d'Elton John ?
Ah non Isabelle, ça c'est Alain Sirou, notre expert scientifique. Les lunettes certainement, vous allez voir, il est rigolo.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
C'est la mi-temps pour nos gladiateurs de l'info. L'équipe est sauvage reprend son souffle avant la dernière ligne droite. On va parler du pouvoir de la lune. On a désormais la preuve qu'elle agit sur les plantes. Et si elle agissait aussi sur nous ? Et puis on parlera également du pouvoir des poils.
Ah ouais.
Calmez-vous Eva, moi-même je n'ai pas très bien compris de quoi il s'agissait. Une chose est sûre, à 18h nous connaîtrons le nom du chroniqueur du jour. Enfin quand je dis 18h, en réalité un peu plus tôt, puisqu'aujourd'hui nous enregistrons l'émission avant. Quand ça nous arrive, comme hier avec François Berléand, on se pose toujours la question « Et si jamais un truc grave arrive dans l'actu entre l'enregistrement et la diffusion ?» L'émission passe-t-elle à la poubelle ? Ce sont des choses qui arrivent, mais seulement en cas de force majeure, comme nous l'expliquions à François Berléand hier.
Parce qu'on arrive très tôt, en fait.
Donc il est 16h.
Ah oui, il est 16h.
Aujourd'hui ?
Ouais.
Il est 16h aujourd'hui ?
Ouais.
Aujourd'hui, oui.
On ne sait pas qui va mourir entre...
Non. Une seule fois, l'émission a été
François-Xavier de Maison.
François-Xavier de Maison. Chirac.
Ah merde, alors là, ce sera peut-être Giscard. Bon, on verra bien.
On verra bien. On croise les doigts tous ensemble. Ah ! Mais tiens donc, Eva ! C'est qu'il est 17h sur Europe 1.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous êtes sur Europe 1 et vous écoutez la rampe de lancement idéale du week-end, l'équipe est sauvage en public, car aujourd'hui Eva... Oui, aujourd'hui c'est vendredi, elle va danser toute la nuit et on croise les doigts pour qu'elle rencontre un mec plus
Arrêtez.
Dégourdi que celui qu'elle avait ramené chez elle vendredi dernier. C'était tellement laborieux qu'elle avait eu le temps de m'appeler. Je lui dis, tu t'ennuies ?
Un petit peu, ouais. Non, mais j'ai l'impression surtout qu'on a commencé il y a 5 siècles, donc voilà.
On le salue ! C'est pas s'il nous écoute. Le grand tournoi des meilleurs journalistes d'Europe 1 entre dans sa phase finale. Qui remportera la prestigieuse couronne ? Vous votez via Twitter, sachant que la voix de notre invité d'honneur comptera triple. Ce soir, c'est la comédienne Isabelle Carré qui nous accompagne. S'il vous plaît, vous pourrez justement l'applaudir au Théâtre du Rond-Point à Paris dans Détail de Lars Noren. En ce moment, on continue d'en parler. Le temps simplement, Isabelle, de vous présenter nos deux ultimes concurrents du jour en ce 24 janvier. À ma gauche, la record woman du monde de la bonne résolution qui aura tenu le moins longtemps. Pour rappel, au début de ce mois, Ève Roger, réputée pour être à Europe 1 ce que Robin Wright est à House of Cards et Cruella au 101 Dalmatien, déclarait dans un élan de bonté mielleuse qui ne lui ressemblait pas.
Alors maintenant, j'ai décidé d'être tout à fait zen et je laisserai les autres gagner avec beaucoup de bienveillance et de gentillesse.
Une trêve de courte durée puisque trois jours plus tard, elle revenait à sa philosophie habituelle.
Écrabouiller les autres. Hein.
Bonjour Ève Roger.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors, ces derniers temps, vous avez privilégié les sujets de fond, les sujets exigeants, parfois difficiles. Voyant que tout ça vous rapportait moins de points qu'avant, vous avez décidé de revenir à vos fondamentaux. Aujourd'hui, vous nous parlez du poil.
Eh bien, détrompez-vous, c'est un sujet de fond. C'est vrai. Vous allez le comprendre.
Donc, mais du poil de qui ?
Ben, du poil des femmes, puisque les vôtres, vous ne vous rendez même pas compte, vous en avez plein, personne n'en parle. Alors que nous, les femmes, on en a beaucoup de poils.
Je connais des hommes qui s'épilent aussi.
Hein, oui, c'est... mais enfin, le torse un peu, quoi. pas
donc,
les gens.
Donc c'est les femmes qui ne s'épilent pas, c'est la tendance du moment.
C'est la tendance du moment, puisque vous connaissez le dry januari, oui. Le janvier sans alcool, et bien il y a le janou hairy, le janvier à poil, et il me restait plus que quelques jours pour vous en parler.
Mais dans quel monde on vit? À vos côtés, Isabelle Carré, il est notre expert scientifique, directeur de la revue Ciel et Espace. On le sait peu, mais c'est pour lui qu'à l'époque, Elton John avait écrit Rocketman. Elton, avec qui on peut le dire maintenant, il y a prescription. Alain avait eu une petite aventure à la fin des années 80. Au fond de son cœur, Alain n'a jamais oublié Elton, un garçon
qui a une particularité.
Oui.
Il a une petite lune.
Oui, oui, non. Très attachant, Alain. Vous m'avez dit qu'il était attachant. Bref, bonjour Alain Sirou.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous, bonjour Isabelle.
Et justement, aujourd'hui, vous nous parlez de l'effet de la lune sur les plantes qui vient d'être démontré scientifiquement et peut-être sur nous. Ça, ça reste à démontrer.
Oui, c'est une information scientifique qui date d'hier soir et que j'ai trouvé très poétique. C'est-à-dire, pour la première fois, des scientifiques, donc des biologistes, ont démontré que le clair de lune a une influence sur les plantes. Et je trouve ça très beau. Au moment où
mais
on s'apprête...
influence
bah, je vais vous le dire.
Ah oui, 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 c'est teasing. C'est moi qui me trompe.
Mais
je
oui,
fais
exactement.
Une Axel de Tarlé.
Mais bien sûr.
J'allais me lancer, on allait partir sur, sur la lune parce que oui. Ça me passionne comme sujet. Il se peut que je vous donne mes points.
Votre point.
Ne me décevez
pas. Enfin, comme à chaque fois. Hein.
Moi, j'en ai trois alors, c'est
vous
ça.
Vous en avez trois. Oui. Mais si je décide d'en avoir deux, j'ai le droit. C'est moi qui.
Ah bon,
moi qui décide. Les dés sont jetés. Clair de lune pour plantes grasses ou femmes à poil. Quel sujet sortira vainqueur de ce Camoulox? La réponse tombera juste avant 18h. En attendant, puisqu'on la reçoit, nous sommes allés vous poser la question. Qui est pour vous Isabelle Carré? Voici, non pas un micro-trottoir gentillet, on n'est pas chez Drucker. Voici notre micro-trottrache. C'est comme un micro-trottoir, sauf qu'on a laissé aussi les vacheries.
Bonjour Isabelle Carré.
Une petite blonde, ouais, c'est ça.
Les timides, là, comment le truc des timides, hein, avec Poulverde et puis hôtel 3 étoiles ou 4 étoiles, un truc comme ça qui était très bien.
Elle est fraîche, elle est charmante, elle fait. Oui, non, elle est adorable, oui, je l'aime bien, oui.
Bah, le cinéma, j'aime pas ces gens-là. Ils ont la belle vie, ils foutent rien. J'ai les acteurs, vous connaissez le film.
Ah, adorable, adorable. Ah, ouais, moi j'adore Isabelle Carré. Ah, ben si, pourquoi je l'aimerais pas? Ça a l'air de vous étonner.
Je vais voir ce soir la pièce avec Isabelle Carré, détail. Au rond-point, parce que mon cher, je suis abonné au théâtre du rond-point.
Elle dégage beaucoup d'émotions, elle est sensible, elle est assez émouvante, elle est touchante, je trouve.
Isabelle Carré, une exceptionnelle actrice.
Très sexy, en tout cas.
Ah ouais, on a tout laissé, on vous a dit, on a tout laissé. Ça vous convient? Vous
sexy,
vous reconnaissez?
Je me tourne un peu, j'ai l'impression que.
Ah bah, excusez-moi Isabelle Carré, mais on n'a qu'à regarder, on va revisionner.
Non, il
n'y
a que dans 4 étoiles.
Si vous n'êtes pas sexy dans 4 étoiles, je
et
me fais.
Et d'ailleurs, les journalistes me disaient à chaque fois à la fin du film, mais pourquoi vous ne restez pas comme ça? Bah, 2 heures de maquillage.
Oh non, vous êtes si.
Une heure de coiffure, 2 heures de maquillage.
Non, mais il paraît qu'on vous dit souvent Isabelle Carré discrète et lumineuse.
Absolument. Je m'en suis amusée d'ailleurs dans mon livre Les Rêveurs.
Dans mon livre Les Rêveurs, oui.
Voilà, et pour démonter un peu ça, le livre s'appelait au début La partie immergée de l'iceberg à cause de ça, enfin en partie en tout cas.
Alors donnez-nous deux adjectifs qui vous caractériseraient et enfin les journalistes arrêteront de vous embêter avec les discrètes et lumineuses.
Aidez-nous à être moins cons.
Je sais pas, c'est super dur. On n'est pas, on est 1000, dit Pirandello, voilà.
Ah bah ouais, c'est plutôt bien. Pas mal comme,
donc,
comme
mille.
Réponse.
On est 1000.
Moi j'aimerais revenir sur une chose, vous avez 3 enfants si je ne m'abuse,
oui.
Si Wikipédia dit vrai. Vous, dans votre jeunesse, vous avez une enfance, vous êtes l'anti-Tanguy par excellence. À 15 ans, vous décidez de vivre seul.
Oui.
Et vous, votre père payait le loyer, mais vous payez tout le reste, c'est-à-dire que pour gagner votre argent, vous faisiez des photos pour des magazines ados comme Jeune et Jolie ou OK Podium.
Oui.
C'est une époque un peu libre. Est-ce que vos enfants, vous leur laisserez la même liberté?
Non, ou... absolument pas. En aucun cas.
Donc vous les mettez en garde contre les dangers de cette vie-là?
Déjà, je ne parle pas de mon départ à 15 ans, déjà.
Ah oui, donc là, ils l'apprennent, en fait.
Aucune imitation ne sera possible.
Donc, voilà. On ne reproduit pas ça chez les Carrés aujourd'hui. Les enfants, si vous nous écoutez, on reste à la maison. Elle passe un merveilleux moment en notre compagnie. Je sens qu'elle adore toute l'équipe et qu'intérieurement, elle se dit...
Espèce de blaireau.
Non, ils sont géniaux dans cette émission.
En aucun... Non, pas du tout. Je suis très bien avec vous.
Et surtout, mais
j'ai très envie qu'on me parle de la Lune.
Oui, ouais, calmez-vous, parce que commencer à parler comme ça à Alain Siron, on ne sait pas où ça peut aller. Isabelle Carré passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre, acte esthétique ou militant, de plus en plus de femmes rejoignent les rangs du poil power. Lassées des dictats de la société de consommation, elles ont décidé de ne plus s'épiler. Ève Roger est allée à leur rencontre pour comprendre leur démarche. Une mode qui, cela dit, je le rappelle, n'est pas si nouvelle que ça, puisque déjà, au cœur des années 70, Depardieu, toujours poète, lançait à Miu Miu.
Mais t'as pas besoin de culotte, y'a pas de mousse en hiver.
Toute une époque, comme on le disait.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1.
matin, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage, la grande compète des journalistes d'Europe 1 continue en public le vendredi avec notre invitée d'honneur, Isabelle Carré. Actuellement à l'affiche de Détail au Théâtre du Rond-Point à Paris, Isabelle, immense comédienne qui va peut-être accepter de livrer à nos journalistes quelques secrets de pro pour améliorer leur diction, leur présence et leur permettre de se bonifier à l'antenne. Qu'est-ce qu'il faut faire avant une chronique, Isabelle ?
Comme ça, pour détendre les lèvres. Jean Carmet faisait tout le temps ça et après, il rotait.
Eh bien, Ève Roger a entendu le message. C'est à
c'est
vous, Ève.
Vous n'êtes pas obligé de roter, mais pour détendre les lèvres, ça marche bien.
Ouais. Ève, c'est à vous.
Alors, vous avez dit tout à l'heure, et j'en étais sûre puisque je l'ai écrit, vous allez me dire, c'est pas nouveau, les femmes qui laissent pousser leurs poils. C'était le cas dans les années 70. Soutien-gorge en l'air et poils sous les bras. Et tout le monde se souvient des photos des aisselles touffues de Julia Roberts, Madonna, Beyoncé, même Laetitia Casta. C'est vrai. Mais détrompez-vous, arrive vers nous une génération de jeunes filles portée par la chanteuse Adèle, qui dans son clip Balance ton quoi exhibe.
Alors Angèle. Plutôt par Angèle, parce que Adèle n'a pas chanté Balance ton quoi.
Bah, peut-être qu'elle a des poils aussi, et qui dans son clip. Donc, dans Balance ton quoi, elle exhibe de très beaux poils soyeux sous les aisselles, des jeunes femmes féministes, mais qui n'ont pas renoncé à leur féminité et encore moins à leur sensualité. Je vais vous raconter l'histoire de Zélie. Alors, c'est là, Isabelle Carré, vous pouvez prendre la photo numéro 1. Voilà. Zélie, elle a 21 ans. Regardez sa photo, je vous la montre. Je la décris à nos auditeurs. Elle est tout simplement ravissante, cheveux longs, lèvres pulpeuses et
elle
rouges.
Elle veut pas faire un stage à la radio ?
Silhouette fine et des poils partout.
Ah bon ?
Comme un homme. Ça fait 6 mois qu'elle ne s'épile plus et je lui ai demandé quelle était la partie poilue de son corps la plus difficile à assumer.
Pour moi, je dirais les jambes, parce que c'est vrai que dès qu'on se met en robe, en jupe ou même quand on fait un ourlet à son pantalon, tout de suite ils dépassent et ils sont à la vue de tous les inconnus dans la rue, au travail. Alors que pour les autres parties, c'est beaucoup plus intime. Il suffit de mettre un t-shirt à manches longues ou autre.
Ah, voilà, et puis pour le maillot, un petit pareo à la plage et la honte a disparu. Mais vous allez comprendre à quel point le regard des autres est difficile à porter quand on ose franchir le pas. Écoutez Zélie.
Je pense que c'est une sorte presque de dégoût pour certaines personnes. En fait, comme si j'étais une femme sale, une sorte aussi de mépris, de préjugés en disant bon, bah, cette femme est une féministe radicale ou des choses comme ça.
Alors je vous passe aussi les injures habituelles, King Kong, Cheetah ou encore Nounours.
Mais si c'est difficile, Ève, pourquoi ces jeunes filles font le choix de ne plus s'épiler ?
Alors, il y a d'abord les raisons matérielles. D'abord parce que c'est cher, forfait, demi-jambe maillot aisselle. Vous avez une idée du prix ? Bah, je vous le dis, entre 40 et 60 euros chez une esthéticienne. Parce que c'est douloureux, je vous passe les détails. Ensuite, parce que beaucoup vivent cette épilation imposée comme un élément de la charge mentale. C'est-à-dire, il faut y penser avant d'aller à la piscine, avant d'aller à la plage, avant de mettre un short. Et puis, évidemment, avant un rendez-vous galant, ça c'est le passage obligatoire. C'est impossible autrement et c'est ça la raison de fond. Elles luttent contre cette norme imposée par la société avec leurs poils. Elles veulent déconstruire cette norme à la fois, un, pour montrer que ce n'est qu'une construction sociale et deux, que leur corps leur appartient et qu'elles en font bien ce qu'elles veulent. On va écouter là Amandine, 29 ans. Là encore, je fais passer une photo. Vous allez voir Amandine. Alors là, c'est une belle blonde, cheveux courts. Elle est très élégante, mais regardez bien ses jambes.
Ne montrez pas cette photo à Alain.
Donc, Amandine fait partie de l'association LPS, liberté, pilosité, sororité. C'est LPS, donc, et elle va vous raconter comment le déclic lui est venu.
Ça a été ma petite fille de 3 ans qui me voyait m'arracher mes poils et qui était vraiment choquée, qui m'a dit « Mais maman, pourquoi tu fais ça ?» Et là, vraiment, j'avais pas envie de lui répondre parce que c'est plus joli, quoi. Parce que c'est pas vrai, c'est pas plus joli. Donc là, je me suis dit « Ok, j'arrête de m'épiler. »
Voilà.
Mais alors attendez, vous m'avez écrit une relance que je n'assume pas parce qu'elle est terriblement machiste. Mais elles ont des conjoints, ces femmes. Et pourquoi pas bah, dis donc que ces bonnes femmes qui s'épiment pas, elles arrivent à trouver des mecs. Alors, et ils en pensent quoi?
C'est bien de ne pas l'assumer, bravo.
Je n'assume c'est pas.
Vrai. Enfin, c'est vrai qu'elles ont évidemment, parce que vous avez vu, elles ont des femmes et des maris. Mais je vous renvoie à la question, Mathieu, d'abord avant de vous répondre. Qu'est-ce que vous diriez, vous, si votre compagne, dont vous nous parlez souvent ici, vous disait « j'arrête de m'épiler » ? Vous la soutiendriez?
Très franchement, c'est une bonne question. Je ne sais pas. C'est vrai qu'on n'est pas habitué, mais après, tous nos critères, même de goût, sont façonnés par la société. Pourquoi est-ce qu'on aime des jambes lisses? J'en sais rien. C'est parce que j'ai toujours vu des jambes lisses. Peut-être qu'il faut s'habituer. J'en sais rien.
J'ai posé la question à mon mari ce matin, en me réveillant. Je lui dis alors, si je faisais ça? Il me dit, je sais pas. Il a répondu comme vous.
On est bon quand même. Hein.
Alors, tous ceux que j'ai interrogés.
Ça s'appelle beauté en touche.
Tous les conjoints que j'ai interrogés de ces femmes-là, d'Amandine et de Zélie, ils ont répondu parce qu'ils sont aussi de cette génération-là. C'est son corps, c'est son choix et je l'aime comme ça. Voilà.
Eh bien, écoutez, merci Ève Roger pour cette enquête. Votre chronique mérite-t-elle les 3 points ? Isabelle Carré va-t-elle revendre son épilateur ? Réponse juste avant 18h. Eva, votre réaction à ce sujet sur les poils ?
J'ai voulu adopter une hermine après.
Merci.
Europe 1.
À suivre, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir et la question que vous posera fatalement votre conjoint tout à l'heure. Sachez quoi lui répondre en écoutant les conseils d'Eva Rock. Et puis Isabelle Carré continuera de nous raconter les coulisses de la vie d'actrice qu'on espère un peu plus glamour que les coulisses de la vie d'auteur de bande dessinée. Rapport à ce que nous disait Catherine Meurice avant-hier.
Est-ce que le festival d'Angoulême, moi j'ai jamais eu la chance d'y aller, c'est un peu comme le festival de Cannes, c'est un peu des soirées à gogo, du champagne qui coule à flot ou c'est une autre ambiance?
C'est plutôt ambiance gastro et grippe, c'est, donc c'est un chouette festival.
Oh ouais, ça a l'air super. L'équipe est sauvage revient juste après une artiste que j'adore et il semblerait que je ne sois pas le seul. It's Oh So Quiet, Björk sur Europe. It's Oh So Quiet, c'était Björk sur Europe, je crois que vous aimez beaucoup Björk.
Ah bah je suis fan de Björk, j'ai été en Islande sur les traces de Björk.
Ah carrément
de... Ouais.
Vous l'avez rencontré?
En vrai fan, je voulais la croiser dans un bar de Reykjavik mais j'ai pas croisé, non.
Mais ça, c'est votre problème, Isabelle, vous êtes trop humble. Il fallait passer par l'attaché de presse, vous dites, je suis Isabelle Carré, je suis une star, j'ai eu le César, donc je veux une rencontre, on se rencontre, on fait une soirée,
non,
voilà.
Mais on parle de Björk, quoi, là.
Mais on parle de vous, Isabelle Carré. Ah,
l'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.
Une seule couronne, et quelle couronne, pour quatre journalistes. Qui sera élu chroniqueur Europe 1 du jour? Et la question que se pose certainement notre invitée d'honneur, Isabelle Carré.
J'en ai rien à foutre.
Ou pas. Isabelle, on parle de cette pièce détail dans laquelle vous jouez actuellement au Théâtre du Rond-Point à Paris. On parle également de L'Esprit de Famille, ce film qui sort mercredi prochain. Mais on parle aussi et surtout de vous, l'actrice Isabelle Carré. On dit souvent, il y a cette phrase, un grand acteur peut tout jouer. Ou une grande actrice doit savoir tout jouer. Mais vous avez l'air de ne pas partager cette idée. Puisqu'on vous a proposé, par exemple, de jouer Marine Le Pen, je crois. Là, vous avez dit non. Il y a certains rôles, non merci, quoi.
Non, j'ai besoin de m'identifier un petit peu.
vous pouvez pas jouer un serial killer, par exemple?
Ben, j'ai joué un rôle qui était, enfin, une érotomane. Vous
oui,
citiez
ce je me souviens
ce terme
de ce
là,
film.
Tout à l'heure.
Non, il faisait citer.
Voilà, il faisait.
Non, mais c'est très bien d'associer Eva à ça, c'est très bien.
Une femme un peu particulière, psychotique, mais j'ai quand même besoin d'avoir un minimum d'empathie, en fait. C'est pour ça que j'ai du mal, je ne peux pas jouer un personnage foncièrement antisémite ou raciste ou infanticide. Non, j'ai besoin d'avoir un petit lien.
Mais est-ce que c'est des rôles qu'on vous propose ou qu'on vous a
On m'a proposé deux fois d'être infanticide et je n'ai pas pu. Ouais. Même si on ne voyait rien. Hein.
Si c'est Martin Scorsese demain qui vous demande de jouer une femme infanticide, vous lui dites non Martin, t'es gentil.
Mais c'est-à-dire qu'en fait, il faut imaginer que vous recevez le scénario, après vous en rêvez, enfin, il faut que ça travaille dans la tête. Après, il y a les un mois et demi, deux mois de tournage, avec Martin, c'est plutôt trois. Et voilà, faut vivre avec ça, quoi,
vivre
tous
avec
les
le
jours,
personnage.
En fait.
On ne sort pas de son personnage, c'est pas une idée qu'on se fait quand on ne connaît pas le métier. C'est vrai qu'on garde le personnage en soi pendant tout le temps. Toute la durée du tournage,
ouais,
quand on rentre chez soi le soir.
C'est pas si étanche que ça, en fait. Ah, oui. Et ouais, après, avec le métier, on apprend à prendre un peu de distance, mais il y a une très jolie histoire avec Patrick Devers que j'aime bien raconter. Ouais. Un jour, il rentre chez lui et il est complètement déprimé et sa femme lui dit « Mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui se passe ?» Et il dit « Aujourd'hui, j'ai tué quelqu'un. » Sa femme lui dit « Mais non, tu as joué que tu tuais quelqu'un. » Et il répond « Oui, mais j'ai vu que j'en étais capable. »
Ah oui,
ça fait réfléchir, effectivement. Ouais. C'est vertigineux. Alors en tout cas, du travail, vous allez en avoir, puisque selon une étude de l'université d'Oxford, ma chère Isabelle, on passe désormais tous 17 minutes chaque soir devant l'écran d'accueil de Netflix et autres plateformes de VOD pour savoir ce qu'on va regarder. Heureusement, Dieu nous a envoyé dans sa grande mansuétude... Et baroque, voici 17 minutes de gagner.
Je ne sais pas qui c'est votre dieu, mais franchement, depuis le début de la saison...
Je ne sais pas.
J'avais envie de prendre un personnage féminin dans une série récente. Et j'avais envie de vous parler de Annie Easton. Elle a 30 ans, elle écrit des articles pour un site internet. Alors, elle adore sortir, elle adore porter des robes courtes, très colorées. Des robes XXXXL. Annie est grosse. Alors, elle n'est pas ronde ou vaguement enveloppée. Non, elle est grosse. Annie Easton, c'est l'héroïne d'une série formidable dont la deuxième saison débarque sur Canal+. La première est disponible sur le site. Et ça s'appelle Shrill, série féministe qui a un atout, ne pas faire de la grossophobie le sujet principal. Il s'agit surtout du quotidien d'une jeune femme, bien dans ses pompes, avec ses doutes, ses délires, ses bonheurs. C'est parfois cru quand il s'agit de parler de sexualité. Ça parle beaucoup de sexualité. Annie, elle est incarnée par Heidi Bryant. Elle a 32 ans. La jeune femme, elle a longtemps été complexée par son physique. Elle a fait ses classes au Saturday Night Live sur la BBC, NBC. Pardon. Et quand elle a appris que ce livre de chevet, donc Shrill, allait être adapté en série, elle a foncé. Elle a décidé de coproduire cette fiction en s'attribuant évidemment au passage le rôle principal. C'est vraiment une comédie qui est très réussie. Alors, évidemment, grâce à cette interprète et parce qu'elle évite un peu le rire gras pour évoquer avec tendresse et intelligence surtout l'existence de ce personnage si attachant. Vous avez tout le week-end pour regarder la première saison et puis le début de la deuxième saison. Ça s'appelle Shrill.
Et voilà. Vous savez quoi regarder maintenant? Ouais. Comme quoi, on peut remercier Dieu, Eva.
Oui.
On peut le remercier aussi.
Ou moi.
Et vous,
voilà,
17
merci.
Minutes de gagner, c'était Eva. À suivre, on pourrait l'écouter nous parler du cosmos pendant des heures. Mais comment la passion d'Alain Sirou pour les étoiles est-elle née? Eh bien, à l'école.
J'avais un prof à l'école qui m'a montré la Lune. Et je suis tombé par terre, j'ai trouvé que c'était génial.
Aujourd'hui, zoom sur la Lune, dont l'influence sur les plantes est désormais prouvée scientifiquement. Mais a-t-elle aussi une influence sur nous, humains? On posera la question à Alain, qui peut-être, s'il est de bonne humeur, nous répondra.
Europe 1, l'équipe est sauvage. 16h, 18h. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
C'est porté par l'enthousiasme d'un public survolté que je vous accueille pour la dernière équipe sauvage de la semaine. 2 heures pour rire et découvrir en compagnie d'un invité d'honneur, tantôt charitable, tantôt un peu moins. Oui, c'est vrai, je l'admets, hier j'ai eu tendance à savonner. J'ai eu un peu de mal à mettre un mot devant l'autre. Ai-je pu compter sur la sollicitude de François Berléand? Pas vraiment. Il sera un fantôme très loquace mercredi prochain dans... Je vais le refaire. Parce que je l'ai pas... Alors, quand j'écris mal le truc, j'arrive pas à le dire.
Ah oh bah même quand c'est bien écrit, j'ai l'impression.
Oh le cochon! Aujourd'hui, c'est Isabelle Carré qui nous accompagne. Isabelle, vous êtes, j'ai envie de dire, l'anti-star par excellence. Vous dites, j'ai beau faire ce métier depuis que j'ai 17 ans, il m'arrive de me sentir illégitime. Vous racontez même cette histoire qui paraît alors absolument surréaliste, celle de Nathalie Baye qui, au cours d'un tournage, vous dit « Jusqu'ici, j'ai réussi à passer entre les gouttes, mais cette fois, ils vont se rendre compte que je ne suis pas bonne. »
Oui, c'était sur les sentiments et ça m'avait sidéré. Je disais « Mais Nathalie Baye, quoi !»
Mais donc ce jour-là, vous auriez dû vous dire, ce que je ressens parfois, ce complexe d'illégitimité,
bah
en fait,
ouais, ça
il
m'a rassuré.
Bah oui.
Je me suis dit, bah ça va, on est tous pareils en fin de compte.
Et je dirais même que c'est ce qui définit probablement les meilleures actrices et les meilleurs acteurs, ceux qui doutent. Parce
mais
que
c'est
ceux
pas
qui
parce
pensent...
qu'on le sait que ça passe.
Alors, ma chère Isabelle, je pourrais parler avec vous pendant des heures, vous le savez, mais voilà, l'équipe sauvage est une compétition.
Oui.
Et l'heure est venue d'écouter notre ultime concurrent du soir.
J'ai bien hâte.
Personnage haut en couleur, s'il en est, ponte de l'astronomie française, son statut de directeur de la rédaction de Ciel et Espace le place d'ailleurs au-dessus de ses camarades, si bien que lorsqu'on fait une déloc, il a, disons, ses exigences.
On ne peut pas partager de la même chambre d'hôtel,
ah oui.
Moi, c'est pas possible. J'ai envie de me balader à poil si j'en ai envie,
oui.
Je fais des bains moussants, je claque les portes, quelquefois je fais monter les putrusses à 4h
oui.
du matin.
Oui, on verra là, on n'en est pas encore là, de toute façon on n'a pas le budget pour une déloc pour l'instant. Alain Sirou, vous nous parlez aujourd'hui de l'effet de la Lune sur les plantes.
Oui. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'essai chez vous un soir de discuter avec des copains,
ah non,
des copines, de l'influence de la Lune sur le jardinage, par exemple.
Oui.
Vous allez tout de suite vous rendre compte que vous vous fâchez très vite entre ceux qui croient
oui,
qu'il faut planter à la Lune montante, à la Lune descendante. Que certains disent, mais ce vin, mais c'est de la biodynamie, tu ne comprends pas. Ça a été développé parce que c'est la pleine Lune et on ne plante pas n'importe quand. Tout ça est totalement sans base depuis très longtemps.
Il n'y avait pas d'études.
Non, il n'y avait rien de concret, rien qui montre que le vivant, en particulier les plantes, soit... Alors, ce n'est pas, je dirais, sujette à la pleine Lune, parce qu'il y a un vrai effet, c'est la gravitation.
La oui, Lune, l'effet sur les marées, par exemple.
La Lune et le Soleil, ensemble, font les marées. C'est-à-dire que c'est une force gravitationnelle, mais vous n'avez jamais vu non plus une piscine fermée pour cause de marée basse. Donc, ça veut dire que c'est une influence faible.
C'est vrai, ça.
Oui, ça vous épate, ça.
Oui, ça m'épate, oui, parce que, effectivement.
Et donc, la première étude qui montre que le clair de lune, pas l'influence gravitationnelle, a un effet sur les plantes, a été présentée hier. Alors, c'est un groupe du CIRAD, c'est-à-dire ce sont des agronomes pour le développement. Et c'est presque accidentellement qu'ils ont découvert ça. Ils s'intéressaient, en fait, au caféier, c'est-à-dire l'arbre qui fait le café, vous voyez. Et ils étudiaient... finalement, le lien entre ce qu'on appelle l'horloge circadienne, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur de la plante et qui permet à la plante de savoir s'il fait jour, s'il fait nuit, s'il fait chaud, s'il y a des influences. Vous savez, les plantes, elles ont un atout et un inconvénient, c'est que ce sont des êtres vivants qui sont fixés par les pieds, qui ne peuvent pas bouger. Et donc, il faut qu'elles aient développé des récepteurs extrêmement sensibles, extrêmement fins, pour savoir si c'est le début de la journée, s'il fait chaud, si c'est les saisons, etc. Et ça s'exprime comment?
Dans une horloge. Bégonia, il sait qu'il est 9h du matin et que j'ai oublié de l'arroser.
Exactement.
Il m'en veut.
Et ça, il le sait parce qu'il est plein de gènes. En fait, les gènes, c'est un peu comme... si vous prenez l'horloge au sens typique, c'est les rouages, en fait. Mmh. Et ces agronomes qui étudiaient la plante se sont rendus compte que au moment de la pleine lune, il y avait à peu près 10% de ces gènes qui s'exprimaient différemment. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui marquait une différence, une réaction de la plante à la pleine lune. Alors, ils ont fait quoi? Ils ont mis un paquet de caféiers, en laboratoire sans pleine lune visible, et puis l'autre, ils l'ont laissé dans la nature. Et c'est très fin, parce que si vous prenez le soleil, c'est à peu près 100 000 lux.
la Lune. C'est de la lumière reflétée du Soleil. C'est 0,2 lux. C'est quasi rien.
C'est infime.
Si vous voulez bronzer à la pleine Lune, il va falloir vous exposer 500 000 fois plus longtemps.
En même temps, oui. Alain, qui aurait l'idée de bronzer à la pleine Lune? Je vous pose la question. Je sais que vous avez une vie un peu différente de la mienne.
Non, parce que
vous évoluez, dans d'autres cercles. Mais...
Parce que certains pensent qu'on peut se prendre des coups de Lune. Oui. Alors, quand on se prend un coup de Lune, on se dit combien de temps il faut s'exposer.
Présentez-moi vos amis, Alain.
C'est vrai.
Ils sont très variés. Certains sont fixés au sol, d'ailleurs. Et donc, alors, ce qui est extraordinaire, c'est finalement, on a pour la première fois ce signal extrêmement faible de ce qu'une plante est capable de détecter ça. Alors, qu'est-ce que ça change? On n'en sait rien. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Mais non, mais c'est vrai, on ne sait pas si c'est positif
ou négatif. On ne sait même pas si c'est positif.
Non, on est encore en train de discuter, savoir si ça favorise la croissance ou si c'est un stress pour la plante. Il semblerait que ce soit les deux. C'est peut-être pas incompatible d'ailleurs. Mais moi, ce que j'adore, c'est finalement qu'on regarde différemment le vivant depuis qu'on s'intéresse à la fois à la recherche de la vie dans l'univers, mais aussi en découvrant que la vie la plus extraordinaire, la plus folle, la plus belle, elle est sur la Terre. Et il suffit de regarder autour de nous, finalement, comment les plantes, comment
pourquoi
les animaux...
Vous, Michel Serrault dans la cage aux folles, tout à coup, là, on est monté très très haut dans les aigus, c'est l'excitation.
On est en train de découvrir, et je pense que c'est une révolution, qu'aujourd'hui, la Terre est au centre de nos intérêts et que la vie, à tous les niveaux, c'est-à-dire que ce soit végétal, animal, nous sommes des animaux, ou tout ce que vous voulez, microbien, a inventé des choses extraordinaires et a une perception de la nature que nous n'avons pas encore. Donc on doit s'inspirer de ces plantes. Et je dirais, si c'est la Lune qui nous le dit, alors c'est formidable parce que c'est poétique en plus.
Est-ce que c'est vrai qu'on doit leur parler ?
Aux plantes ?
Ouais. Est-ce qu'elles s'expriment ? Vous disiez qu'elles s'exprimaient avec la Lune autrement. Est-ce que...
Alors, certains le pensent, mais là, encore une fois, c'est...
On ne sait pas.
Non, parce qu'en fait, c'est très difficile de...
De parler avec une plante, oui, ça c'est vrai. Il y a des conversations, la plante n'a pas beaucoup de répondants.
Mais tous les gens qui ont la main verte vous diront qu'il faut leur parler.
Et tout le monde dit ça, oui.
Et que c'est vrai...
Et même aux arbres.
Aux arbres, aux rosiers.
Bon, alors on va vous laisser, et les gens en blanc vont venir vous chercher. Tout va bien se passer. Bravo Alain Sirou, c'était très bien. Le vote final approche. Isabelle Carré aura-t-elle été subjuguée par la Lune d'Alain? Restez avec nous.
Europe 1.
À suivre, comme moi, votre couple s'embourbe dans la routine du quotidien car vous n'avez aucune créativité culinaire et chaque soir, faute d'idées, vous proposez à votre compagne de commander sur Deliveroo. Chaque soir, dans Delice in Extremis, notre expert gastronomique Olivier Pouls vous livre, en plus d'une recette facile, des tuyaux pour repimenter votre vie de couple. Par exemple, cuisiner nu, comme le dit souvent Olive.
Quand votre femme va rentrer dans la cuisine et qu'elle va vous voir à quatre pattes devant le four, ça fait toujours un truc. Hein.
Bon appétit, bien sûr.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez toujours l'équipe est sauvage du vendredi en public. Une émission au budget pharaonique, pour ne pas dire indécent, symbole de cette opulence. Notre couronne de chroniqueur du jour qui n'est pas du tout en train de s'effriter. C'est un pur effet d'optique. Non, vraiment, dans l'équipe est sauvage, on a de gros moyens. D'énormes moyens, comme a pu le constater hier notre invité François Berléand, décidément pas le dernier pour bitcher.
Hier, j'étais à Radio Bleu, ils ont des plus gros écrans.
Oui, mais c'est pas la taille qui compte, pas vrai Eva? Rassurez-moi.
On sent du vécu.
Bref, aujourd'hui, on est ravis de passer l'après-midi avec Isabelle Carré, ou devrais-je dire Yvonne.
Yvonne de Gaulle, oui.
Yvonne de Gaulle, bientôt au cinéma,
bientôt,
le 4 mars, je crois.
Oui.
Alors ça, quand on reçoit... Avec Lambert Wilson, le scénario pour incarner Yvonne... Elle est assez secrète, Yvonne de Gaulle, finalement. Elle a une image un peu bobonne, tout ça. On ne sait pas qui elle était, en fait. Comment on interprète Yvonne de Gaulle?
Eh bien, on l'interprète avec gratitude, parce que c'est vrai que c'était un personnage assez fascinant, qui avait une petite fille trisomique, on ne le sait pas beaucoup. Et qui a été créée une des premières fondations en fait pour s'occuper des enfants trisomiques. Voilà, c'est un personnage. Moi, ça me plaisait de jouer ça parce que justement, j'avais pas besoin d'être dans l'imitation, ce qui est pas mon fort.
Oui, parce qu'il y a pas beaucoup d'images d'elle, sa voix.
On n'a jamais entendu sa voix.
On la connaît pas.
Et je pense qu'elle jouait beaucoup avec cette image, comme vous disiez, un peu bobonne, un peu derrière ses casseroles, comme ça. Ça lui convenait en fait pour être libre. Et j'aime bien cette idée de pas forcément vouloir exister partout, tout le temps. On est un peu une époque où, de selfie, où il faut tout le temps se montrer. Et j'aime bien, c'est moi, les personnages qui restent discrets et lumineux.
Discrets et lumineux. Vous-même, vous parlez comme une journaliste. Voilà, 2 heures avec nous et ça y est, vous devenez plus journaliste que les journalistes. C'est une catastrophe. François Berléand, qu'on recevait hier, est un bon vivant. On a beaucoup... on n'a pas le droit de dire ça. On n'a pas beaucoup bu. On a bu, avec modération, une bonne bouteille qu'on nous avait apportée. Il paraît que vous partagez cette passion pour le vin, en tout cas pour les bons petits plats. Ça, c'est vrai que...
Oui, le vin, je bois modérément, mais bien tous, sûr. Les jours.
tous les jours.
Oui,
quand
même. Tous les jours. C'est ma façon d'atterrir après le spectacle, en fait.
Vous pouvez boire avant une pièce ou pas?
Alors, je dois dire 2-3 gorgées, pas plus.
Est-ce que ça aide à vaincre le stress ou c'est un mauvais conseil à donner, justement, parce que, au contraire,
on va être
moins performant.
Quoi. Il faut savoir s'arrêter au bon moment.
Il faut se connaître. Il faut connaître la bonne dose.
Il faut se connaître. Parce que l'effet du truc, en fait, décuple l'effet de l'alcool.
Ah oui.
J'ai le souvenir, par exemple, qu'on avait fêté un jour, avant une représentation, un anniversaire. Je m'étais un petit peu lâchée sur le champagne et je me suis fait une petite parano sur scène. J'avais l'impression, ouais, que je n'allais pas pouvoir aller au bout parce que l'effet de l'alcool était vraiment décuplé, quoi. Donc, trou de texte, petite montée d'adrénaline, coup de chaud.
Ah bah, il vaut mieux éviter, quand même.
Mais vous êtes vraiment très propice au stress d'avant spectacle ?
Non, j'ai pas le trac en fait.
Non.
J'ai pas le trac, mais c'est vrai que c'est assez bizarre le trac parce que vous pouvez être. C'est pas forcément à la première, ça peut être à la 15e représentation, tout à coup une petite montée comme ça, vous savez pas pourquoi.
Ouais. Enfin, en même temps, avec 3 verres de Chablis, c'est sûr qu'on est moins sujet au trac. Justement, puisque vous êtes une bonne vivante, je vous présente l'antidote à la monotonie culinaire, mesdames. Si en cuisine, votre mari a la créativité d'un bulot neurasthénique et que vos dîners en amoureux ressemblent à ça.
Après le thon, nous mangerons une omelette. Et des bananes.
Quittez-le tout de suite et sortez avec Pulse. Bonjour Olivier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde, bonjour Isabelle.
Alors, chaque soir dans Délices in Extremis, Olivier, vous sauvez notre palais et parfois même notre couple. Au menu ce soir.
Mais j'espère que j'ai sauvé le vôtre à de nombreuses reprises.
Vous l'avez sauvé
à
de nombreuses reprises. Le sauverez-vous jusqu'au bout? Ça, je ne sais pas. Il va falloir me donner encore d'autres recettes.
Bon, Isabelle, est-ce que je vous emmène au Pays Basque?
Ah, chouette.
Voilà, regardez. Encore des points marqués.
Vous savez y faire, vous. Hein.
Ah oui.
La cuisine du Pays Basque, magnifique quand même, ce pays de cocagne.
Les piquillos farcis.
Voilà, le piment d'Espelette, les jambons, les vins d'ailleurs aussi, remarquables.
Les rouligis.
Voilà, et moi je vous propose de faire un ochoa. Alors ça s'écrit O-X-O-A, mais
c'est
ça se prononce ochoa. Ochoa, qu'est-ce que ça veut dire en basque ?
Ochoa de quoi ? D'agneau, de veau ?
Ah, mais je vois que vous connaissez bien ça.
Bah, dis donc, je connais le Pays Basque quand même.
Ochoa, ochoa, ça veut dire.
Il me prend un con par vos
jeux.
Je vais au McDo tous les jours et parfois, il m'arrive de manger des trucs pas dégueu.
Et donc, de l'ochoa. Bah, moi, je vous fais de l'ochoa de veau. Je trouve que ça, c'est une viande qui se prête particulièrement bien.
Vous avez déjà vu un veau?
Oui, ouais, bah, oui, j'en ai
déjà
mangé.
Ça vous attendrait pas?
Bah, ma foi, quand il est découpé en petits morceaux.
Oui, bon, d'accord, enchaînons. Amis vegan qui nous écoutaient, restez sur Europe 1. Olivier Poulpe.
Et parfaitement bien accommodé, comme ça va être le cas dans un instant. Donc, ochoa, ça veut dire haché. Donc, on va prendre des morceaux de veau, du tendron de veau, par exemple, qu'on va couper en petits morceaux. On va y rajouter des poivrons, c'est indispensable, de l'oignon, un petit bouquet garni. Moi, je rajoute un petit peu de vin blanc aussi, parce que je trouve que ça donne du goût. Et puis surtout, le fameux piment d'Espelette, l'emblème du Pays Basque, ce piment que le monde entier nous envie. Appellation d'origine contrôlée et désormais protégée depuis 2000, le piment d'Espelette va donner son goût à cette ochoa. Et contrairement à ce qu'on pense, le piment d'Espelette n'est pas un piment qui est très fort, il n'est pas très puissant.
Il faut quand même le doser, non ?
Alors, évidemment qu'il faut le doser, mais vous savez, il y a une échelle de gradation sur les piments qui va de 1 à des chiffres très élevés pour les piments qui arrachent, mais vraiment de manière colossale. Et en fait, le piment d'Espelette, il est 4 seulement sur l'échelle, sur une échelle qui va plus haut que ça. Et en fait, 4, c'est à peine plus fort que le poivre. Donc vous pouvez, franchement, du piment d'Espelette.
On peut avoir la main lourde sur le piment d'Espelette.
Donc l'idée, c'est de faire compoter ensemble vos poivrons que vous avez coupés en petits morceaux.
Ça veut dire quoi, compoter ?
Ça veut dire cuire lentement, doucement, sans brûler le fond de la casserole, mon cher Mathieu. Voilà, avec
vous savez que moi, niqué une casserole à la maison l'autre jour. ma compagne m'a dit, ça c'est poule, si nous a niqué la casserole.
Pas du tout.
Si. Si tu parlais, tu servais l'apéro en même temps, le truc est cramé.
C'est faux.
Tu me dois une casserole.
C'est faux.
C'est pas faux, c'est vrai.
Moi, je fais ça à toutes mes casseroles, moi.
Non, il faut y aller tout doucement, donc un petit peu de matière grasse.
On compote.
Voilà, on compote tranquillement, on rajoute la viande, on rajoute notre vin blanc, on rajoute le piment d'Espelette et on laisse cuire à feu doux pendant 45-50 minutes. Ce qui est important, c'est que la viande commence à devenir très moelleuse et puis que nos oignons, nos poivrons soient vraiment compotés. Puis il n'y a plus qu'à servir. Alors on sert ça là-bas soit avec des pommes de terre, vous pouvez le servir avec du riz aussi, c'est délicieux. Et évidemment, on va chercher une belle bouteille des rouleghis dans la cave pour accompagner
là,
ce bordel.
Il y a eu une tentative de prendre l'accent du sud-ouest, là.
Et rouleghi, on dit là-bas.
Ah oui, on ne dit pas comme ça là-bas, mais vous avez tenté de le dire.
Je vous garantis que si.
Il y avait un peu de belgitude qui rentrait dans cette expression. Merci beaucoup, Olivier Poulpe, pour cette recette. Olivier Poulpe, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
Europe 1.
Il est temps bientôt de mettre fin au suspense qui vous ronge, suspense insoutenable. Qui sera élu chroniqueur du jour?
Peut-être Poupec.
Peut-être Eva, mais vu qu'il n'est pas là, il est plus probable que ce soit un des quatre journalistes que nous avons entendus. A tout de suite les amis pour la grande finale.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Plus l'attente est longue, plus le soulagement est grand.
C'est pas du Churchill, ça, non?
Non, du Jean-Luc Ley. Et justement, aujourd'hui, nous recevions la comédienne Isabelle Carré, une sacrée. Isabelle Carré, que vous pouvez applaudir au Théâtre du Rond-Point à Paris dans Détail de Lars Noren et la semaine prochaine au cinéma dans L'Esprit de Famille d'Éric Bénard. Et Isabelle, le moment que vous attendiez tant est arrivé. Qui sera élu chroniqueur du jour? Ils ont chacun 10 secondes pour plaider leur cause. Attention, certains, quand ils sentent que c'est foutu comme Ève Roger, peuvent être très mauvais joueurs.
J'ai une grave hésitation entre Plante ton slip et le boxeur de Schwitz de Jérôme Lacroix.
Bah alors, on s'en va.
Mais non, restez là, Ève. Restez là, Ève. Soyez fair play. Et dites-nous pourquoi Isabelle Carré devrait voter pour vous aujourd'hui.
Moi, je dirais que j'ai mis le doigt sur une souffrance invisible de millions de femmes, et surtout les brunes. Et puis parce que j'ai fait une chronique au poil.
Oui, parce que vous parlez de l'épilation, on la rappelle. Nicolas Carreau, pourquoi voter pour vous?
Parce qu'on a évoqué ensemble l'attrape-cœur, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur.
Et surtout, c'était seulement la 27e chronique dans laquelle vous nous parliez
de l'attrape-cœur.
Et donc, effectivement, c'est un vent de nouveauté à souffler sur l'émission.
J'en parlerai encore.
Axel de Tarlé, pourquoi voter pour votre chronique sur la cantine?
Ben justement, sujet pas facile, la cantine, le jambon purée, et pourtant très concernant. Et on a le numéro 2 mondial des cantines, Sodexo, donc vrai sujet. Sodexo qui est un sponsor, je vous le rappelle.
Ah oui, donc d'accord, ouais. Il y a cette dimension-là qui... Ok, ouais. On comprend mieux la chronique. Alain Sirou, pourquoi on vote pour vous et les effets de la lune sur les plantes qu'on ne sait même pas ce que ça fait en fait?
Peut-être parce que pour rappeler qu'il existe un lien entre le vivant et le cosmos et que ce lien passe par la lumière.
Ne regardez pas notre invité comme ça, ce n'est pas du jeu. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
Alors, nos auditeurs, sur Twitter, ils ont donné à une large majorité les deux points à Nicolas Carreau. Ah,
Nicolas Carreau, c'est parce que j'ai dit que c'était un beau gosse, je pense, si on les voit sur Internet et tout,
on possible, donne les points. Hein, ouais.
Et découvrons maintenant le vote du public. Nous étions public aujourd'hui, ouais, avec notamment les étudiants du lycée Théodore Obanel d'Avignon, qu'on salue et qu'on remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Alors, le vote du public, Eva?
Eh bien, ils ont vu Nicolas Carreau.
Ah, mieux!
Donc, à une large majorité, ils ont voté aussi Nicolas Carreau.
Ah oui, il y avait beaucoup de filles. Hein. Oui. Bravo, Nicolas.
Le de Nicolas Carreau.
Ce qui fait donc 4 points déjà pour Nicolas Carreau. Pour ma part, je donne mon point aujourd'hui. J'hésite.
Nicolas Carreau.
Allez, je vais faire un grand chelem, Mathieu, s'il vous plaît.
Bah, juste pour que tu ne fasses pas le grand chelem, je donne mes points à Alain Sirou. Mon point. Car ici, vous le savez, c'est l'invité qui tranche. Isabelle Carré.
Alors, puisque vous citiez Churchill, pour les perdants, je vais donner une citation de Churchill qui est assez consolante. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme.
Axel, c'était pour vous?
Non. Un petit peu, je dois dire.
Non, pour vous donner vos points, celui que vous choisissez, pas celui que...
Ah non, il ne faut pas éliminer. Alors, enfin, vous pouvez éliminer. Aussi, c'est encore plus marrant.
Je ne vais pas être originale, mais je vais donner mes points aussi à Nicolas, car il m'a soudoyé au début de l'émission en offrant ce livre. Et vous, comment rangez-vous vos livres? Et dans lesquels j'ai un petit chapitre.
C'est une des personnages du livre.
Voilà.
Moi, chère Isabelle, je peux vous inviter à la cantine.
Oui, mais c'est le livre de Nicolas Carreau, c'est absolument contraire au règlement, déontologiquement. Bah. C'est absolument dégueulasse,
et
on peut le dire.
Et le stage
il y a sa bibliothèque dedans, c'est normal.
Oui, mais vous aurez droit au stage anticorruption qu'Axel, lui, avait fait la semaine dernière.
J'ai déjà fait la semaine dernière.
Nicolas Carreau remporte la 101e journée de l'équipée sauvage. On remercie chaleureusement Isabelle Carré, notre invitée au Théâtre du Rond-Point actuellement et la semaine prochaine au cinéma dans L'Esprit de Famille. Merci également à mes équipiers du jour, Eva Roch, Ève Roger, Alain Sirou, Nicolas Carreau, Axel de Tarlé et l'homme doté d'un estomac à double fond, Olivier Pouls. L'équipe est sauvage revient demain 16h. Tout de suite, restez sur Europe 1. Écoutez Le Monde Changer avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs pour votre grand journal du soir. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Mathieu. Merci pour cette équipe est sauvage du vendredi. Demain, c'est Best Of. Et lundi, Daniel Pénac à vos côtés, l'amoureux des mots. Très belle soirée Mathieu.